Samedi dernier, le pape émérite Benoît XVI est décédé à l'âge canonique, si j'ose dire, de 95 ans. Nous sommes revenus sur le parcours de celui que beaucoup qualifiaient de pape timide et réservé. Eh bien, c'est Jean Leclerc, professeur de sciences des religions à l'UCL, ainsi que membre de l'Académie royale de Belgique, qui répondait à ce sujet aux questions d'Asley Santoro.
Jean Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes professeur en sciences des religions à l'UC Louvain et vous êtes également membre de l'Académie royale de Belgique. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va parler du décès de Benoît XVI et plus généralement de la fonction de pape dans le monde. Alors, le pape émérite Benoît XVI est décédé samedi à l'âge de 95 ans. Il a marqué les esprits, notamment en abdiquant en 2013, laissant donc la place à son successeur, le pape François. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'héritage que Benoît XVI laisse à l'Église, dans le sens, qu'a-t-il fait de notable à vos yeux en tant que pape ?
Mais exactement ce que vous venez de dire, le fait qu'il a, alors pas à proprement parler abdiqué, mais qu'il a renoncé à sa charge parce qu'il a fait valoir qu'il n'en avait plus les capacités physiques et les capacités psychiques, et donc sans doute les capacités morales et spirituelles. Et ça, le fait qu'un pape, dans toute l'histoire de la papauté et d'une façon globale du catholicisme romain, le fait qu'un pape renonce à cette charge, dit quelque chose de la façon dont la papauté comprend la charge. Car n'oublions pas qu'auparavant, et Benoît XVI a évidemment vécu au plus près cette situation-là, puisque depuis les années 1980, il vivait au Vatican. Il a vu la déchéance totale dans laquelle est tombé le pape Jean-Paul II. Et c'est peut-être un peu éloigné pour nos téléspectateurs, mais enfin, il ne faut quand même pas oublier que ce pape a été montré dans sa déchéance la plus totale. On l'a vu ne parvenant pratiquement plus à parler, à s'exprimer. On savait évidemment qu'une chose et son contraire étaient faites, si vous me permettez l'expression, derrière le dos du pape. Et donc Ratzinger a vu cette situation-là, et lui, au moment même de son pontificat, il pense que l'on peut renoncer à cette charge. Et ça, je pense que c'est un signe, un geste et un symbole qui restera dans toute l'histoire de la religion catholique.
Mmh, tout à fait. C'est justement ce que j'allais vous demander. Maintenant, on imagine que ça nous en dit beaucoup sur l'évolution de la fonction de souverain pontife, cette renonciation. On imagine aussi que si ça doit arriver dans l'avenir, cela arrivera probablement certainement plus. Est-ce que ça signifie qu'on est un petit peu plus souple dans l'Église pour accepter une renonciation ?
Alors, je ne sais pas si on est plus souple, car Benoît XVI était un pape que l'on qualifie d'une façon globale de conservateur. C'est-à-dire, c'était un gardien de la doctrine de la foi. Mais le fait qu'il ait désacralisé la mission de pape et le pontificat, car n'oublions pas quand même, cela ne remonte pas à très très longtemps, si vous regardez des images du pape Jean XXIII, Pie XII et même encore Paul VI, il y avait véritablement une sacralisation de la fonction et même une sacralisation de l'homme. Alors Benoît XVI a mis tout ça de côté et ça fait effet, puisque nous savons que le pape actuel François, alors qui est un tout autre profil, hein, ce n'est pas du tout un intellectuel ni un théologien comme l'était le pape Benoît XVI, mais vous savez que sa lettre de renonciation est prête. Donc ça veut dire que je crois qu'il a enclenché un geste dans l'histoire qui fait que cette mission, si vous voulez, de pape, c'est quelque chose qui peut être ponctuel. C'est quelque chose qui peut s'arrêter et qui n'est pas sacralisé, qui n'est pas spiritualisé, comme l'a fait Jean-Paul II, qui voulait faire penser aux catholiques, quitter au fond et renoncer au fait d'être pape, c'était carrément abandonner l'Église catholique et c'était peut-être même marquer une forme de défiance à son égard. Chez Benoît XVI, ce n'est plus du tout le cas et je pense que ça a été pensé de façon très pratique, mais aussi de façon très, très théologique, puisque c'est un théologien.
Mmh. Alors justement, vous parlez de Benoît XVI comme d'un pape très conservateur. Vous avez également dit que l'actuel pape François n'est pas du tout le même profil. Alors quelles sont les différences ou même les similitudes majeures qu'on a pu remarquer entre la pensée de ces deux papes finalement ?
Bah, je pense qu'ils n'ont de toute façon pas du tout le même parcours. L'histoire de Benoît XVI, c'est l'histoire d'un jeune intellectuel qui entre très très tôt dans la vie sacerdotale et qui fait une carrière avec des études très approfondies en philosophie, en théologie, une thèse de doctorat très importante, une habilitation à diriger des recherches. Alors il enseigne quand même dans de grandes universités allemandes, ne l'oublions pas, il enseigne à Bonn, il enseigne à Tübingen et puis bien sûr à Ratisbonne. Et puis alors il va devenir un archevêque et surtout il va devenir ce fameux préfet pour la doctrine de la foi. Donc il va jouer un rôle très important qui va consister à garder cette doctrine de la foi. Et c'est vrai qu'il est plus attentif à la garder qu'à la faire évoluer. Ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Tandis que le pape actuel, c'est plutôt un pasteur. Alors c'est pas du tout un théologien, c'est plutôt l'homme de quelques bonnes paroles, n'est-ce pas, ce côté un peu rondouillard, qui dit une chose et parfois son contraire, mais qui, par exemple, me semble infiniment plus superstitieux que le pape Benoît XVI. Vous n'auriez jamais entendu certaines formules, notamment sur l'existence du diable. Comme c'est actuellement le cas pour le pape François, vous n'auriez jamais entendu ces formules dans la bouche de Benoît XVI. Et alors, le pape François pourrait apparaître comme plus progressiste. C'est vrai que quelque part, il l'est dans certaines paroles et dans certaines déclarations. Mais la vraie question que nous devons se poser, est-ce que il y a des conséquences sur le plan des actes? Voyez-vous? Et donc ça, me semble-t-il, c'est une très grande différence entre ces deux profils d'hommes, où l'un restera quand même comme une stature importante de la doctrine, et puis aussi, bien sûr, du rôle considérable de l'Église catholique dans le monde, et l'autre sera sans doute plus perçu comme un pasteur, mais dont les idées ne sont pas toujours très claires.
Certains analystes parlent de Benoît XVI comme d'un pape mal aimé, d'un pape qui avait une vision assez sombre et pessimiste de l'avenir pour l'Église catholique et pour le monde. Il s'inquiétait notamment de la déchristianisation de l'Europe. Vous rejoignez cette pensée?
Oui, ça c'est vrai, il y a plusieurs parties de discours qui touchent à ces questions-là, et je crois qu'on peut même encore aller plus loin. Il était habité par une profonde désespérance envers l'Église catholique elle-même, parce que quand vous relisez certains de ses textes, ou avec le recul certains de ses discours, et notamment sur la situation propre à son Église à lui, c'est-à-dire l'Église catholique, là il y a un profond pessimisme. Mais en réalité, maintenant, avec le recul de l'histoire, nous savons que l'homme était au courant des affaires les plus graves, des détournements d'argent, et bien sûr de la très très grave crise de la pédocriminalité, pour laquelle lui-même n'a pas toujours été extrêmement lucide, notamment quand il était en charge de son diocèse de Ratisbonne. On sait que là, l'Église allemande lui reproche de ne pas avoir suffisamment fait pour la dénonciation des prêtres pédocriminels, mais quand il est arrivé dans sa fonction de pape, on sait par ailleurs que là, il a prôné la tolérance zéro, mais que, évidemment, regardez la situation systémique dans laquelle se trouve l'Église de France, il s'est trouvé devant une montagne d'actes de pédocriminalité, avec un clergé donc lourdement impacté par cette question de la pédophilie. Et ceci a fait que Benoît XVI a tenu des propos très noirs sur l'Église en disant qu'elle devait se réformer et qu'en elle-même, elle était habitée par les pires dégradations de l'humanité, voyez-vous. Donc il n'y a pas que la question de la christianisation, il y a eu un regard lucide sur l'état de l'Église catholique et ça ne fait évidemment que s'avérer aujourd'hui lorsque nous regardons ce qui se passe au concret et au quotidien.
Oui, effectivement, et toujours lorsque Benoît XVI était pape, il a effectivement dû faire face à cette révélation de nombreux crimes de pédophilie, mais également au scandale financier du Vatican et de ces tiraillements d'une église de plus en plus minoritaire en Europe occidentale. Est-ce que finalement tout cela, ça a un impact sur les communautés chrétiennes et catholiques, les pays qui sont très catholiques par rapport à leur foi en l'Église et en la figure de pape, finalement?
Oui, sans aucun doute, même si cette notion d'une église qui se prétend être universelle est une notion qui est quand même excessivement compliquée à vivre aujourd'hui, en 2023, dans un monde extrêmement globalisé. Comment voulez-vous parler à la fois un même langage à des Américains du Sud, à des Américains du Nord, des Chinois, des Japonais et bien entendu des Européens? Et en ce sens-là, on peut dire que Benoît XVI a été bien sûr un pape de la mission universelle de l'Église, mais c'était quand même un pape très européocentré sur la théologie, sur la doctrine. N'oublions jamais qu'il avait des difficultés relationnelles importantes avec les théologiens de l'Amérique du Sud, qui étaient des théologiens plus progressistes, ce qu'on a appelé donc les théologiens de la libération. Et je pense que Benoît XVI, plutôt intellectuel, plutôt réservé, plutôt réflexif, a eu du mal avec cette dimension communicante d'un pontificat. Et si vous regardez bien les images que nous revoyons en ce moment sur les télévisions de ce qu'il était, on voyait véritablement qu'il avait un problème avec son corps. Il était plus fait pour enseigner dans une université, s'entretenir avec des étudiants et suivre les travaux les plus pointus que participer, comme le faisait par exemple le pape Jean-Paul II à de grandes réunions catholiques aux quatre coins du monde. C'était un tout autre profil.
Merci beaucoup, Jean Leclerc, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes professeur en sciences des religions à l'UC Louvain, ainsi que membre de l'Académie royale de Belgique. Merci beaucoup pour vos éclairages.
Merci à vous.